Radio Indundi Culture, le journal.
Edith Nahayo.
Merci bien d'écouter la Radio Indundi Culture et bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le lycée de la Sekebu Nahangwa à mairie de Bujumbura est menacé par le glissement de terrain. Ceux qui exercent leurs activités craignent pour l'arrêt de ces dernières. Reportage à suivre au cours de cette édition. Dans cette édition également, les agriculteurs des communes Nyabiraba, Mukike et de la commune Mugogomanga de la province Bujumbura divergent sur l'impact du déboisement dans cette province. Dans cette édition également, le commerce transfrontalier entre le Burundi et la République démocratique du Congo connaît encore quelques défis au niveau des textes et relatifs. Explication de l'expert en développement de l'affaire du commerce international que vous allez à suivre au cours de cette édition. Comme tous les mardis, nous avons la chronique santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention de l'endométriose. Voilà pour le sommaire.
Radio Indundi Culture.
Je vous le disais en titre, le lycée de la Sepebu Nahangwa, situé au quartier Djabé, en zone Bwiza de la commune urbaine de Mukaza, mairie de Bujumbura, est menacé par le glissement de terrain. Ceux qui exercent leurs activités craignent pour l'arrêt de ces dernières. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, suite à l'écroulement des locaux actuellement menacés, ils plaident donc pour le secours d'urgence. L'administration communale reconnaît la situation et souligne qu'elle a déjà rapporté les faits à l'IRJ pour que cet établissement soit protégé. Le reportage d'Alice Ndaïzé.
Ce glissement de terrain ne date pas d'hier, selon les informations recueillies sur place. Il s'observe depuis l'an 2022 et s'est agrandi petit à petit à cause de son élargissement. Le lycée Sopebu, un bâtiment à deux étages, est actuellement menacé. La situation s'est aggravée ce lundi où la clôture est plus exposée car son ravin a failli la toucher. Selon les sources environnantes, l'agrandissement du ravin est dû à la mauvaise intention de certains gens qui y exercent de l'extraction ainsi que les eaux en provenance des quartiers Djabé empruntant le caniveau qui passe près de cette école. Ce qui est évident, c'est que si rien n'est fait d'urgence, cette école risque de s'effondrer. La clôture est presque touchée par le ravin. Une partie des locaux présente déjà des fissures au niveau de la fondation, de même que pour la clôture. Même si s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, ceux qui exercent leurs activités au lycée Sepebu Nahangwa nous ont confié qu'ils craignent pour l'arrêt des activités avant que les cours ne soient achevés pour l'année scolaire en cours. Ils crient au secours et dans les meilleurs délais afin que la situation ne s'aggrave. L'administrateur communal de Mukaza, Florent Ngezabahizi, reconnaît cet état de fait et souligne lui aussi qu'une intervention rapide est primordiale. Cet administratif nous a signifié qu'il s'est déjà entretenu avec les responsables de l'église pour qu'ils essaient de freiner le glissement à l'aide des gabions en attendant l'aide du gouvernement. Il ajoute qu'il a déjà rapporté la question à l'autorité hiérarchique pour trouver solution à cette situation. Le lycée de la Sepebu Nahangwa a été délocalisé au quartier Djabé, un seul lieu menacé en 2015. Cet établissement compte actuellement plus de 650 élèves.
Merci Alice Ndaïzei de la mairie de Bujumbura, rendons-nous en province Bujumbura, où des agriculteurs des communes Nyabiraba, Mukiki et Mugongomanga divergent sur l'impact de déboisement dans cette province. Certains s'inquiètent de la sécheresse qui peut surgir. D'autres signifient que le déboisement a se fait pour développer dans leurs champs les cultures vivrières, alors que l'administration et les responsables de l'environnement à Bujumbura sont appelés à contribuer pour couper court à ce phénomène. D'autres demandent au gouvernement d'introduire le système d'agroforesterie pour développer l'agriculture dans cette province. Les explications d'Olivier Cuisel.
Il s'agit des communes Nyabiraba, Mukiki et Mugongomanga qui ont connu le déboisement depuis un certain temps. La population de cette localité signifie que cela se fait dans le cadre de développer les cultures vivrières. Lors de notre passage sur ces communes, nous avons remarqué une divergence des agriculteurs sur l'impact de ce phénomène. Certains précisent que cette localité risque d'être victime de l'irrégularité des précipitations ainsi que la sécheresse qui peut s'observer dans dans les moments à venir.
Des plantations d'arbres ont été détruites à Mayuyu. On y trouve des cultures de pommes de terre. Le même phénomène est à Mugongo Manga. Je l'ai entendu, Kaguibaga, les arbres sont détruits pour planter les cultures de pommes de terre. À Mukiko, on a déjà alerté que les plantations d'arbres sont menacées. Avec son problème, les communes risquent de connaître la sécheresse.
D'autres agriculteurs considèrent que la coupure d'arbres pour la plantation des cultures vivrières contribue dans leur famille. Ils soulignent que ce système est rentable après 3 ou 4 mois alors que les arbres demandent 4 ans pour bénéficier quelque chose.
Beaucoup de gens s'investissent dans le domaine agricole car il est rentable dans 3 ou 4 mois alors que les arbres exigent 4 ans pour bénéficier de l'argent.
Certains agriculteurs avec qui nous sommes entretenus appellent à l'administration et aux responsables ayant l'agriculture et l'environnement dans ses attributions à contribuer pour couper court ce phénomène.
L'administration et les responsables de l'agriculture et l'environnement devraient réagir pour arrêter ce phénomène.
D'autres agriculteurs estiment que la pratique d'agroforesterie devrait être utilisée pour éviter la carence en aliments et l'irrégularité des précipitations suite aux aléas climatiques.
L'administration et les responsables de l'agriculture et l'environnement devraient réagir pour arrêter ce phénomène.
À ce sujet, nous avons contacté le Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage. Le directeur nous a promis de s'exprimer là-dessus dans nos éditions ultérieures, selon les informations recueillies auprès des agriculteurs de la province de Bujumbura. Le phénomène de déboisement existe depuis plus de 2 ans. Les mêmes sources disent que les cultures du manioc, maïs et pommes de terre font partie des cultures vivrières les plus cultivées dans les localités de Muki, Kenyabiraba et Mugongo Manga, toutes de la province de Bujumbura.
Merci Olivier Kwizera. De son côté, l'association communautaire pour la protection de l'environnement estime alors que le déboisement à grande échelle risque d'entraîner la vulnérabilité des terres arables, ce qui, selon elle, influe sur la fertilité du sol et sur la production. Par conséquent, le président de cette association, Innocent Banigwani Ntigo, propose aussi une agriculture allant de pair avec la sauvegarde de l'environnement, le reboisement. Donc, suivez à ce propos Innocent Banigwani Ntigo, il est le président de l'association communautaire pour la protection de l'environnement.
Une fois déraciner tous les arbres, ça va provoquer la vulnérabilité de perdre la terre arable sur ces montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura. Et quand nous perdons la terre arable, ça va aussi expliquer la perte de la fertilité et par après et la faible production agricole. Nous voyons que ces arbres qui sont plantés sur ces montagnes aident beaucoup, que ce soit dans la fixation du sol, mais dans la sauvegarde de la fertilité, mais aussi dans le maintien du microclimat de cet endroit, parce que la plupart de ces arbres captent d'autres biodiversités qui sont utiles pour le traitement du sol, mais aussi pour la multiplication des espèces, que ce soit les espèces végétales qui participent dans la production agricole. Alors, chaque fois qu'on déracine ces arbres, ça va influer sur la production agricole, mais aussi sur la fertilité du sol, parce que la plupart des montagnes de cette province sont des montagnes qui possèdent de fortes pentes. Nous recommandons qu'il faut mixer les deux techniques. Au lieu de déraciner tous ces arbres-là, il faut les couper avec les cultures afin que nous garantissons la pérennité et la sécurité alimentaire. À défaut de ça, c'est un grand problème pour demain, parce que nous aurons des collines très exposées à l'érosion, très exposées au glissement de terrain, dénudées, qui ne servent à rien au niveau de la production agricole et de l'économie locale et même nationale.
Radio Indondi Culture.
Élevage à présent, au moins 10 vaches sont mortes, atteintes par la dermatose nodulaire dans un délai ne dépassant pas 2 mois. En province Bururi, et plus de ça, 20 ont subi un traitement asymptomatique. Les éleveurs contactés à Bururi s'inquiètent pour la propagation de cette maladie virale et plaident pour la disponibilité de médicaments, voire les vaccins, afin de couper court à la maladie. L'information de Serge Sindai Gaya, élu par Jean de Dieu Nahiman.
La province de Bururi est en proie à une épidémie de dermatose nodulaire bovine, une maladie virale affectant le bétail. En deux mois, 121 cas ont été recensés dans trois communes, Songa 78 cas, Matana 22 cas et Bururi 21 cas, entraînant la mort de 10 vaches. Face à cette situation, le gouverneur de la province de Bururi, Leonidas Bandenzamaso, a annoncé des mesures strictes pour limiter la propagation de la maladie. Il impose la stabilisation permanente des bovins, interdisant ainsi leur divagation. Tout éleveur qui ne respectera pas cette consigne s'expose à des sanctions. Cette mesure est également soutenue par le ministère en charge de l'élevage, qui l'a rappelé jeudi dernier. Pour endiguer l'épidémie, les autorités misent également sur la vaccination. Le ministère de l'élevage assure que les vaccins sont disponibles, mais recommande aux éleveurs de se regrouper car chaque lot permet d'immuniser 100 vaches. Les services vétérinaires de la province sont mobilisés pour surveiller l'évolution de la maladie et sensibiliser les éleveurs sur les bonnes pratiques sanitaires. La population est invitée à signaler tout nouveau cas suspecté afin de renforcer la lutte contre cette épidémie qui menace l'économie locale, largement dépendant de l'élevage.
De l'élevage au commerce, le petit commerce transfrontalier entre le Burundi et la République démocratique du Congo connaît encore quelques défis au niveau des textes relatifs. C'est ce qu'annonce l'expert en développement de l'affaire du commerce international, Emmanuel Kagisé, qui vient de faire une étude sur le petit commerce entre les deux pays. Il donne l'exemple des redevances informatiques qui ont été revues à la hausse pour la loi budgétaire en cours au Burundi, ce qui, selon lui, ne facilite pas les commerçants. Il propose donc des améliorations pour favoriser le développement de ce commerce. Suivez Emmanuel Kagisé.
J'ai fait un inventaire du texte et j'ai analysé les forces, les faiblesses de ces textes et proposer des améliorations qu'on peut apporter à ces textes pour pouvoir faciliter la fluidité du commerce transfrontalier entre nos deux États. Alors, j'ai analysé les textes des deux côtés et j'ai fait chaque fois des recommandations pour harmoniser le texte applicable au commerce transfrontalier et les aligner aux standards régionaux et internationaux, ce qui va faciliter grandement le commerce transfrontalier entre nos deux pays. Le premier exemple que je peux donner, c'est par exemple la taxe sur l'installation de la taxe sur la redevance informatique. Les années passées, la redevance informatique était de 10 000 francs. Dans la loi des finances actuelle, la redevance informatique est passée à 100 000. Vous comprenez que pour un commerçant, un petit commerçant transfrontalier qui exporte, qui vend ses marchandises à Ouvira, par exemple, pour une valeur de 50 000 francs. Donc, si vous lui ajoutez une redevance informatique de 100 000 francs et c'est systématique, vous comprenez que ça devient très compliqué et ça empêche carrément le commerce de se développer.
Voilà, c'était Emmanuel Kagisé. Il est l'expert en développement de l'affaire du commerce international. Le ministère burundais, ayant la solidarité nationale dans ses attributions, confirme le retard constaté dans l'opérationnalisation de la politique d'octroi des terres cultivables annoncée en 2023 par le chef de l'État. Le ministère situe le nœud du problème dans la complexité qui règne autour du foncier en général au Burundi, mais fait aussi état de certains ménages batois ayant eu de l'open de terre à travers les provinces. Après des lamentations chaque fois soulevées par les ménages batois, toujours en difficulté, le porte-parole de ce ministère, le défenseur Majambéré, dit que la commission interministérielle mise sur pied pour identifier les terres domaniales a attribué aux batois un travail d'arrache-pied et veille au dire du président de la République. Suivez le défenseur Majambéré.
Il y a une commission interministérielle qui a été mise en place pour identifier les terres qui pourraient être attribuées au ménage batois tel que promis. On a travaillé, on a même attribué des terrains pour des groupes équipements, des batois, des terres qui ont été identifiés disponibles. Et on est toujours à l'œuvre. Ceux qui attendent, nous les invitons à croire aux institutions de l'État. On est toujours à l'œuvre. Une fois que les terres sont disponibles, on les attribue aux bénéficiaires. C'est toujours la nôtre, mais on identifie les terrains qui pourront être productifs pour les bénéficiaires. C'est cette identification qui fait tarder l'action, sinon la préoccupation reste toujours la même depuis l'annonce de la promesse des terrains pour la population batois. On a travaillé dans plusieurs communes et des provinces. Si quelqu'un n'aurait pas trouvé une issue favorable cette année, je tranquillise que chaque année, on travaille avec nos structures provinciaux et communaux. On travaille avec d'autres partenaires. Il y a des projets qui sont développés dans ce sens. Si aujourd'hui on avait 600 ménages à assister et qu'on se retrouve avec 2000 ou 3000, il est évident que cette année, on ne soit pas assisté. Mais l'essentiel, c'est de rappeler qu'on pourra alors évaluer si la demande est toujours de mise pour pouvoir les assister.
Il défend ses Madjambéré. Il est le porte-parole du ministère Bondé, ayant la solidarité nationale dans ses attributions. Page maintenant, chronique santé.
Radio Indoni Culture, chronique santé.
Dans la chronique santé que la rédaction vous propose chaque mardi, aujourd'hui nous parlons de la prévention de l'endométriose. La gynécologue obstétricienne Vastine Ndaisenga Toyota explique qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement préventif efficace de cette maladie, mais plutôt qu'il faut diagnostiquer cette maladie le plus tôt possible dès le jeune âge de la patiente. Toutefois, elle précise que la prise en charge médicale est pluridisciplinaire. La chronique santé est signée Claire Yakaoun.
L'endométriose est une maladie caractérisée par de fortes douleurs, surtout lors de la période menstruelle. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement préventif efficace contre l'endométriose. Un diagnostic précoce et un suivi régulier peuvent permettre de réduire les symptômes sur le long terme. Alors que, dans notre précédente chronique, nous avons évoqué une prédisposition génétique à l'endométriose, la gynécologue obstétricienne Vastine Daisienga Toyota parle alors de consultations de patientes dès leur jeune âge.
Il y a des douleurs menstruelles qu'on appelle communément dysménorrhée, qui sont essentielles, qui arrivent habituellement les premiers jours des règles. Les antidouleurs classiques, genre paracétamol ou ibuprofène, ça soulage les douleurs et les douleurs ne continuent pas. Mais pour l'endométriose, plus les jours avancent par rapport aux règles, plus aussi les douleurs continuent à augmenter. Quand nos enfants ont mal pendant les règles, un personnel médical.
La prise en charge médicale de cette maladie est pluridisciplinaire, selon la gynécologue, qui pose en premier temps la prescription de médicaments antidouleurs.
Il y a une prise en charge pluridisciplinaire avec une place importante des psychologues. Quels sont les médicaments qu'on peut donner? On va donner les antidouleurs. On connaît plus souvent ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a également un traitement hormonal qui est proposé.
Docteur Ndaisienga Toyota évoque dans certains cas la nécessité d'opérations chirurgicales.
L'autre moyen, c'est la psychothérapie, la chirurgie, principalement la stéréoscopie, par exemple pour les kystes d'endométriose.
L'endométriose peut également avoir des effets sur la conception. Dans ce cas de figure, Vastine explique alors le recours à l'assistance médicale pour la procréation.
Pour certaines femmes, l'endométriose va entraîner les difficultés à concevoir parce que certaines femmes qui étaient condamnées à ne pas avoir d'enfants, aujourd'hui, elles peuvent en avoir grâce à la procréation médicalement assistée.
Cette maladie a un impact surtout psychologique sur la personne qui en souffre. Ce sera le sujet de notre prochaine chronique santé, dans laquelle nous aborderons également la sensibilisation pour l'endométriose, afin que la patiente puisse avoir une bonne qualité de vie.
Merci Claire Kahundi avec la chronique santé. Et c'est ici que nous bouclons cette édition. Mes amis de part, Koufi Olivier Benouari, gardez l'écoute.
Egide Nahayo,